les podcasts de Radio Vatican.
L'assemblée plénière de la Conférence des évêques de France s'est ouverte ce 3 novembre à Lourdes. Pendant 5 jours, 115 évêques français se réunissent pour évoquer des questions liées à l'Église comme à la société. Ainsi, pour cette deuxième session de l'année 2017, les prélats ont notamment prévu de réfléchir à la nécessité de repenser la formation des prêtres en France face à une pénurie persistante et à actualiser la structure de la conférence épiscopale pour mieux diffuser son message aujourd'hui. Un autre grand thème sera abordé pendant cette assemblée, celui des chrétiens d'Orient. Monseigneur Youssif Thomas Mirkis, l'archevêque chaldéen de Kirkouk et de Souleymani en Irak, est présent à Lourdes pour faire connaître la situation actuelle de ces chrétiens orientaux éreintés par la guerre contre le terrorisme. Un terrorisme qui a aussi frappé en France et notamment à Marseille début octobre. La peur qui s'installe mais aussi les grands débats de société sont autant de sujets qui nécessitent de relancer le dialogue et d'en faire aussi participer l'Église. C'est ce qu'a tenu à souligner dans son discours d'ouverture Monseigneur Georges Pontier, président de la Conférence des évêques de France et archevêque de Marseille.
On sent que notre société se durcit et que les capacités de vrai dialogue, c'est-à-dire la recherche du bien commun, finalement, la recherche de l'intérêt général, ne dominent pas encore comme l'objectif de tous, et qu'il y a des ambitions personnelles fortes, et que c'est plus dans l'invective qu'on agit, surtout, je pense, bien sûr, au niveau politique qu'autre chose, mais également par rapport aux religions. On a des situations dans notre société, des propos. Ils veulent nous limiter à la stricte présence dans la vie privée, non plus dans le domaine de la vie sociale et la participation au débat, qui n'est pas une bonne chose. Quand dans les débats de société, on interdit à certains groupes de s'exprimer, alors pour nous, sous prétexte que nous avons la foi, ce n'est pas quelque chose d'acceptable. Parce qu'à ce moment-là, on crée des frustrations et on est en train d'accumuler des capacités de réaction violente ou dure ensuite. Donc le dialogue paraît aujourd'hui, comme toujours d'ailleurs, le seul chemin vrai qui permet la confrontation normale, la confrontation légitime et la recherche de solutions les plus consensuelles possibles. Il y a donc cet apprentissage du dialogue et cette place du débat à une époque où peut-être bien des modèles ou bien des outils ont explosé et sont en train de se reconstituer.
Oui, vous évoquez notamment la nécessité de participer au débat sur des sujets bioéthiques.
Exactement, oui, en particulier sur ces sujets de société, tels que les débats qui vont s'ouvrir sur la révision de la loi de bioéthique et peut-être sur la fin de vie. Et là, ce sont des sujets tellement, tellement importants qu'on ne peut pas empêcher une partie de la population de s'exprimer sous le prétexte qu'il dirait autre chose que ce qu'on souhaite. Il y a une volonté de libérale, comme nous le voyons dans les problèmes de société, qui a du mal à entendre des propos qui sont plus liés à une anthropologie, à une réflexion d'ordre philosophique et humaine. Et ils sont dans la course, la satisfaction des désirs individuels, sans se soucier des problèmes de dignité de l'homme et de la défense de tout être humain.
Et ce dialogue, il est aussi important dans un contexte marqué par le terrorisme. D'ailleurs, vous y avez été confronté à Marseille.
Eh bien, on y a été confronté à Marseille, mais là, je dirais que là, les réactions au moment du terrorisme, des actes terribles, mais les réactions de solidarité unanime sont là. Il y a un consensus commun entre les différentes composantes de la société. Moi-même, à Marseille, je l'ai vu avec la participation de tout le monde aux manifestations qui ont pu avoir lieu et même à l'office religieux, les pouvoirs publics, les élus, de tous bords sont là. Il y a une solidarité là qui se joue, qui n'est pas dans le contexte d'un dialogue, sinon dans l'affirmation qu'on ne veut pas se laisser dominer par la peur.
Cette solidarité, c'est la preuve qu'il y a encore raisons d'espérer.
Oui, d'ailleurs, j'ai exprimé aussi à plusieurs moments dans le discours les exemples de solidarité dans notre société et l'engagement des uns et des autres pour le souci en particulier de ceux qui sont les plus démunis. Il y a aussi cette chose-là qu'il ne faut pas oublier ni omettre. Et j'ai voulu, à plusieurs moments de ce discours, me réjouir de voir le tissu associatif ou les initiatives individuelles des jeunes en particulier pour donner du temps ou faire des expériences au service des autres. Il y a donc du positif, il ne faut pas tout voir en noir. Et je voulais, dans ce discours aussi, mentionner ces choses tout à fait positives de l'engagement des uns et des autres dans le tissu associatif.
À l'occasion de cette assemblée à Lourdes, vous allez aborder de nombreux sujets avec les autres évêques, et notamment celui de la formation des prêtres. Pourquoi c'est un des grands chantiers de cette rencontre ?
C'est un des grands chantiers parce que, suite à la ratio fundamentalis pour la formation des futurs prêtres donnée par la congrégation romaine compétente, il faut que maintenant les épiscopats nationaux fassent et rédigent leur ratio nationale. C'est donc, si vous voulez, une tâche qui tombe maintenant puisque la ratio romaine est arrivée. Et il nous faut, sur l'année qui vient ou les 2 ans qui viennent, en se donnant le temps, composer, nous, dans le dialogue entre évêques, des règles de fonctionnement qui nous paraissent les meilleures pour la formation des futurs prêtres dans notre pays et obtenir, en prenant l'éclairage de la ratio romaine, de se mettre d'accord sur des principes, des insistances ou des particularités liées à notre pays.
C'est un sujet qui est aussi abordé avec celui des vocations, notamment en vue du synode des jeunes de 2018 qui est dans
oui.
un an.
Alors le synode des évêques sur les jeunes, la foi et la vocation, ça tombe bien parce qu'il y a aussi ce synode qui est là et qui va parler aussi des vocations. Mais le synode lui-même, lui, nous oriente vers ce que nous faisons pour cette population des jeunes adultes. Comment les rejoindre, comment mieux les connaître, comment les mieux écouter, les mieux mettre en valeur dans la vie de nos communautés chrétiennes. Et on voit que, évidemment, c'est souvent des petits nombres, mais ce sont des nombres très motivés, très marqués par une vie spirituelle, une rencontre du Christ, et désireux de déployer cette rencontre du Christ dans des engagements de société ou dans des engagements de conversion.
C'est aussi un sujet qui va avec cette formation, ces jeunes
oui.
Et la vocation, qui va aussi dans l'idée qu'il faut actualiser les structures de la CEF. C'est aussi un gros sujet de cette assemblée plénière.
Oui, ça c'est un gros chantier qu'on a commencé, qu'on va continuer sur 3 ou 4 assemblées plénières, c'est-à-dire sur 1 an et demi, 2 ans. Il faut tous les 10 ou 15 ans regarder si nos structures sont toujours au service de la conférence ou si elles se sont décalées un petit peu, ou que la réalité s'est décalée par rapport à ce que nous avions en place. Et il faut donc à nouveau, et c'est là où nous en sommes cette fois-ci, se remettre d'accord sur les priorités de l'action de l'Église dans notre pays, de l'évangélisation en particulier, de la vie de nos communautés chrétiennes, comment les choses ont bougé depuis 15 ans, et donc comment nos services aussi sont appelés à bouger dans leurs objectifs, ou peut-être même tel ou tel service dont l'objet n'est plus national et mérite d'être traité au plan provincial, mettons, ou régional, et par contre créer tel ou tel autre service parce que les réalités le demandent. Donc c'est ce travail-là que nous allons faire cette fois-ci, se remettre devant notre responsabilité collégiale et en même temps commencer à désigner des priorités pour aujourd'hui.
Il y a un autre grand thème qui va être abordé à cette assemblée plénière, c'est
oui.
celui de la situation des chrétiens d'Orient
oui.
avec Monseigneur Mirkis. Quel est
oui.
le but de cette invitation de cet évêque de Kirkouk et Soleimani en Irak ?
D'abord, on va dire le prétexte, c'est que nous le connaissons bien, que nous avons travaillé avec lui depuis 2 ans pour soutenir son action en faveur de la formation universitaire de grands jeunes restés au pays et pour leur permettre de ne pas perdre leur année. Et puis la deuxième raison, c'est que portons de manière douloureuse et forte le souci de la vie et de la présence des chrétiens en Orient. Et donc nous voulons l'écouter, avoir son point de vue à lui sur ce qu'il présente, pressant et tout, pour être à même de conforter, d'encourager, d'aider les communautés chrétiennes qui vivent en Orient, parce que ce serait un drame qu'elles émigrent et qu'elles disparaissent. Ce serait un drame pour eux, bien sûr, mais ce serait un drame aussi pour ces régions, car souvent la communauté chrétienne, dans sa faiblesse même numérique, sert de pont entre les communautés musulmanes d'ordre divers. Et vraiment, leur présence est riche à tout point de vue.
Des propos recueillis par Blandine Hugonnet.